On va revenir maintenant sur l'affaire Barella, de la famille Barella, parce que c'est le corollaire de la mort de la petite Liana. Jérôme Barella, c'est le suspect numéro un dans l'affaire, celui qui est en détention préventive. Mais à travers son nom, maintenant, Pauline Revenin, on découvre une famille avec des affaires toujours liées aux histoires de viol, de pédocriminalité et même d'inceste.
Oui, vous avez parlé du frère il y a quelques jours. On vous parle aujourd'hui du père, Joël Barella, 71 ans. C'est donc le père de Jérôme Barella. Le suspect est mis en examen dans l'affaire Liana. Il est accusé d'inceste par deux petites filles de sa compagne. Alors, qui sont-elles et que dénoncent-elles? C'est des témoignages exclusifs qu'on a recueillis avec Alexandra Gonzalez et Linda Bouziade. La première, elle s'appelle Priscilla. Elle dénonce des viols et des faits d'inceste entre ses 10 et ses 13 ans. Joël Barella, il avait 58 ans. Il avait demandé d'en parler à personne. Elle a porté plainte avec sa mère en 2013. Il a été placé en garde à vue. Il a décrit cet enfant comme aguicheuse, ayant tendance à mentir. Mais surtout, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Une information judiciaire avait été ouverte. Le juge d'instruction avait écrit que les faits n'étaient nullement établis. Et en 2021, la décision était tombée non-lieu. Traduction, il n'y aura pas de procès, pas de poursuite contre lui. Vous allez l'entendre, c'est une jeune femme bouleversée qui a accepté de témoigner auprès de BFM TV.
En fait, il s'avère que, soi-disant, une fois, sans le faire exprès, je lui aurais touché le sexe. Et du coup, ça l'a excité. Et du coup, ça a commencé à se frotter à moi. À part ma maman, mon beau-père et la maman de ma sœur, personne ne m'a cru. J'étais une menteuse. Même mon papa, j'étais une menteuse. Mais j'aurais jamais menti sur un truc aussi gros. Il a détruit ma vie.
Alors, aujourd'hui, à la lumière de cette affaire Liana, Priscilla, elle voudrait que les lignes bougent et comme un non-lieu a été prononcé, l'enquête ne peut pas être ouverte en l'état, sauf s'il y a une preuve nouvelle qui est apportée. Ce qu'elle formule aujourd'hui à l'adresse de celui qui a détruit sa vie, c'est qu'elle dit « j'aimerais qu'il paye pour ce qu'il a fait et qu'on ne reste pas des menteuses ». Mais il se trouve que Priscilla, elle a une demi-sœur, Maëva, qui, comme en écho, a témoigné aussi auprès de BFM TV. Elle a dénoncé, elle, des faits d'agression sexuelle. Elle avait 9 ans par le même homme, leur grand-père par alliance, donc. Et elle, le récit qu'elle livre est tout aussi bouleversant. Écoutez.
J'avais confiance en Joël et j'étais dans une caravane, donc moi sur un lit 2 places, et de l'autre côté de la caravane, il y avait un lit 1 place où Joël en général se mettait. Et une nuit, il s'est glissé en fait dans le même lit que moi. Donc il pensait que j'étais endormie, sauf que je ne l'étais pas. Il me disait rien, juste il se frottait à moi et il n'y avait pas de parole, il n'y avait rien. Et puis au niveau de la piscine, pareil, pour lui c'était tellement normal, tellement banal qu'il disait rien. Donc à partir du moment où ça s'est passé dans la piscine, j'avais un minimum de conscience et je commençais à réaliser que c'était grave. À la fois je suis contente parce qu'on va pouvoir être enfin entendue, enfin pouvoir être reconnue comme victime, même s'il n'y a pas forcément de suite. Mais rien que le fait d'être reconnue comme victime et être entendue, ça me fait énormément plaisir, ça me fait du bien. J'ai une vague aussi de tristesse parce que du coup, ça me fait revenir en arrière, me remémorer les faits. Et j'ai une part d'excitation parce que je me dis que toutes les personnes en fait qui ne parlent pas ou les personnes qui ont dû subir ça et qui malheureusement aujourd'hui sont décédées, vont aussi pouvoir peut-être avoir justice au fur et à mesure du temps.
Pour bien comprendre, en fait, Maëva, elle en avait parlé à un prof qui avait fait un signalement. Il y avait une enquête là qui avait été ouverte pour agression sexuelle, qui s'était achevée par un classement sans suite en 2020 pour infraction insuffisamment caractérisée. Sauf que, comme je le disais, les lignes bougent. Et là, le parquet de Béziers a donc décidé de rouvrir l'enquête. Comment est-ce qu'il justifie de rouvrir à l'aune des derniers événements couvrant l'actualité pour procéder à des informations, des vérifications complémentaires, comprenez la mort de Liana et l'onde de choc qu'elle a provoquée dans tout le pays. Donc, ce sont deux témoignages absolument bouleversants.
On a effectivement deux témoignages bouleversants et courageux, Fatima Benomar. Des enfants qu'on n'a pas cru, hein, qu'on n'a pas voulu croire. En tout cas, on les a laissés avec leur drame. Alors là, bien sûr, les choses changent. On regarde l'actualité. Enfin, quel gâchis.
Oui, c'est vrai que j'étais inquiète il y a quelques jours quand j'allais par exemple sur des réseaux sociaux comme TikTok et que je voyais que c'était saturé de parents en colère qui, face caméra, s'en prenaient parfois aux parents de Liana en disant « Vous êtes trop laxiste, moi mes enfants je les laisserai jamais découcher jusqu'à leurs 18 ans, qu'est-ce que cette mère qui laisse sa fille aller dans des soirées pyjama ?» Et en gros qui préconisait que pour la protection de l'enfance, il fallait confiner les enfants dans la seule sphère familiale. C'est oublier très vite que dans les 160 000 enfants enfants qui sont victimes et parents de violences sexistes et sexuelles, la moitié le sont par des proches et par la famille. Donc cette nouvelle envergure de l'affaire Barella va permettre peut-être de faire changer d'axe et de sensibilité à l'opinion publique et qu'on comprenne bien en fait que ce qui structure massivement les violences sexistes et sexuelles, c'est beaucoup les structures de pouvoir, dont la structure de la famille.
Mais là, on a une famille où il y a la culture du viol de père en fils. Parce oui. qu'il y a Jérôme Barella, il y a son frère, il y a son père désormais.
Et je vais dire quelque chose d'assez triste, mais c'est d'une énorme banalité. Déjà, vous dites tout à l'heure qu'on ne croit pas les enfants. C'est même pas ça. C'est que quand une famille sait qu'il y a ce genre de choses dans la famille, et ben quand elle pèse le coût, on va dire bénéfice-risque, pour elle, c'est plus pratique en fait
de mettre une chape de plomb.
C'est-à-dire que le nombre de familles où on sait que tonton a des problèmes avec les nièces et où la seule mesure qui est prise, c'est on continue à l'inviter le dimanche, mais on dit, enfin, on fait en sorte que les filles, les enfants, ne soient pas trop proches de lui. C'est ça la gestion patriarcale.
On va pas gâcher Noël, quoi. En fait, c'est un peu ça. Ouais,
mais là, parce que le coût pour la famille est plus fort quand on doit affronter le grand-père, l'oncle, le père, plutôt. Et donc, on préfère. En fait, c'est l'enfant qui est la victime de cette négociation informelle qui se fait dans la famille.
Dans les témoignages et dans la défense de Joël Barella, de ce que l'on entend même dans le cercle familial, on dit ben oui mais Joël il payait tout.
C'est lui qui payait les maisons.
Donc on parle du patriarche.
Et Priscilla, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à part ma maman, ma sœur, mon beau-père et ma belle-mère, personne ne m'a cru, j'étais une menteuse.
Mais donc parce que ça veut dire qu'il avait aussi une assise financière, il avait un pouvoir financier. Et derrière, il dit oui, mais elle était aguicheuse à 12 ans, 13 ans.
Alors ça, c'est n'importe quel avocat ou quel juge, vous l'entendrez. Le nombre de procès que j'ai vus avec des gamines de 11 ans, 12 ans, et le beau-père disait, je suis désolée, mais elle arrêtait pas de se promener en culotte dans le salon.
Donc elle l'a cherché, c'est ça.
Devant moi, absolument.
Fatima disait, finalement, c'est malheureusement banal, alors qu'on peut quand même, c'est surprenant ce qu'on apprend là de cette famille avec toutes ces affaires qui avaient été pour la plupart donc mis de côté, hein, jamais vraiment traitées. Alors tout d'un coup, la justice se réveille, mais ça semble bien tard.
Attention, n'allons pas trop vite. Présomption d'innocence.
Mmh.
Pour l'instant, il y en a un de la famille Barella qui a été mis en examen et placé en détention provisoire. Mmh. Là, on est en train de dresser un arbre généalogique avec. Du coup, le père, le cousin, le beau-fils, le gendre, etc. Enfin voilà. Mais non, mais sur l'arbre généalogique que vous avez présenté, il y a quand même beaucoup de monde.
Ouais,
la famille Barella. Il faut pas oublier que ce nom, il est porté par des gens qui sont parfaitement innocents. Et il ne faut pas élargir et faire croire que tous les Barella.
Bah, c'est pas ce qu'on dit.
Non, mais je veux le préciser. Ouais. Il ne faut pas avoir la facilité de penser que tous les Barella seraient de près ou de loin violeurs.
Non, bon, on peut s'interroger sur cette loi du silence qui rien. Cette famille.
On peut s'interroger, mais avec beaucoup de précautions. Avec beaucoup de précautions. Vous savez, il y a des gens qui ont probablement dans cette famille 12, 14, 15 ans, 16 ans, qui sont au collège, qui sont au lycée, portent ce nom. Et il faut y aller mollo. Présomption d'innocence, il n'y en a qu'un dans la famille qui est mis en examen et placé en détention provisoire.
Dans tous les cas, ça pousse quand même le parquet à rouvrir, à rouvrir des dossiers.
Et ça, c'est plutôt bien. Il faut le dire.
Reconnaissez que pour l'opinion publique, on dit on ferme, et puis là, d'un coup, parce qu'il y a une affaire d'ampleur,
on
rouvre.
Mais surtout, on le justifie à l'aune des derniers événements.
Voilà,
ça paraît
bizarre.
Ils vont réexaminer, mais pour moi, ça ne dit qu'une chose. Ça vient mettre en exergue, ça vient mettre en lumière les dysfonctionnements structurels qu'il y a dans la justice. On marche sur la tête sur la justice, on est en train de le découvrir tous les jours dans les dossiers.
C'est quoi un dysfonctionnement structurel? Je comprends pas.
Dysfonctionnement structurel, ça veut dire que on ferme, très vite, très tôt, et puis on rouvre quand il y a la pression médiatique. Classement sans suite trop rapidement, parce qu'on prend pas le temps d'aller étudier, parce qu'on prend pas le temps de bosser, parce qu'on prend pas le temps de mettre les moyens des enquêteurs. Enfin, vous voyez, hier, 4 magistrats instructeurs sur le dossier Patrick Bruel.
Ça vous a surpris?
C'est pas que ça m'a surpris, c'est inédit.
Non, mais est-ce que, au-delà même de la surprise, vous dites, c'est gonflé parce qu'il manque tellement de moyens ailleurs que tout d'un coup, on met 4 magistrats là-dessus?
Pour vous donner un ordre d'idée, 4 magistrats.
Notamment en région parisienne.
C'est-à-dire que nous, professionnels du droit, on est confronté tous les jours à un magistrat instructeur. L'affaire Jubilard, c'est 2 magistrats instructeurs. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, c'est 3 magistrats instructeurs. Là, hier, 4 magistrats instructeurs, alors où il y a plus.
Mais pourquoi c'est
à
la tête du client?
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de dossiers à étudier?
Non. Moi, je peux vous donner un exemple. Le dossier Palmade dans lequel j'ai été, il a été jugé, audiencé de 9h du matin, délibéré 21h. La semaine d'après, je fais exactement le même dossier avec une pauvre jeune femme qui est morte à 3, qui est décédée dans un accident de la route. Il a été pris entre 8 dossiers. On avait 45 minutes pour le plaider, le dossier.
Donc en fait, quand c'est médiatique,
quand c'est médiatique, on sait trouver les moyens, on sait bien organiser les choses. Il y a le président du tribunal qui vient, qui bloque des magistrats, qui bloque des parquetiers, qui bloque une salle, qui organise tout. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème auquel on est confronté. Et donc là, je suis très content et je suis très heureux que la parole des enfants, elle soit prise en compte dans le dossier de Liana et qu'on va réouvrir tous les tiroirs, qu'on va réouvrir tous les placards et qu'on va probablement découvrir des choses. Mais c'est très dommage que ce ne soit fait que dans ce cadre-là et qu'il faut attendre un meurtre, qu'il faut attendre une pauvre jeune femme qui est morte et qui ne reviendra jamais pour qu'on ait les moyens de la justice.
Guillaume Daret, il faut qu'on vienne aussi sur le volet politique. À la fois les pressions qui s'exercent sur Gérald Darmanin et puis les propositions qui sont faites ici ou là. On va peut-être écouter d'ailleurs ceux qui demandent démission oui, j'imagine que vous voulez qu'il parte.
Parmi les propositions du moment, pour justement essayer d'en finir avec la pédocriminalité ou tout du moins avec la récidive, il y a le dossier de la castration chimique qui revient.
C'est
la proposition de Bruno Retailleau.
Moi, c'est mon objectif. Que demain, lorsque je serai président de la République, aucun pédocriminel ne se sente en sécurité en France. Et donc, oui, la castration chimique est un élément. Il est pratiqué dans d'autres pays. Aujourd'hui, il peut l'être, mais avec le consentement. Si on ne le fait pas, alors on expose nos enfants. Et moi, j'en ai marre. On ne peut pas durer dans cette société où nos enfants sont menacés.
Guillaume Daret, proposition... Alors, ça existe, hein, déjà.
Oui, sauf qu'effectivement, en l'état, je parle sous le contrôle de Pauline, et in fine, la personne concernée doit donner son autorisation...
Sur la base du volontariat.
Son consentement, effectivement. On voit que c'est porté, effectivement, par Bruno Retailleau, qui, comme d'autres candidats, c'est normal, essaye aussi de poser des marqueurs en vue de la campagne présidentielle sur ces questions de justice-là. On voit que c'est rejeté par une bonne partie, par exemple, de la gauche. On l'a vu dans cette émission hier soir sur BFM. Marine Tondelier, elle dit... Très bien, la répression, mais il faut aussi poser la question de la santé mentale, c'est un élément essentiel. Olivier Faure, lui, il dit, la répression, oui, mais c'est pas par la castration chimique que ça passe par exemple par le développement du port du bracelet électronique, ça c'est un élément important. On voit qu'il y a très clairement un positionnement, c'était marquant dans l'émission d'hier soir, ça ressemblait à la première émission de l'élection présidentielle.
Donc c'est le premier thème de campagne ?
Et ce sera probablement l'un des premiers thèmes de campagne, parce que ce qu'on sent... c'est que on est probablement à l'aube, espérons-le, d'une révolution sur le plan judiciaire et juridique, mais on voit que c'est au sens noble du terme, malheureusement derrière ce drame, un thème noble de campagne d'élection présidentielle.
Le risque, c'est aussi un festival de propositions.
Oui, mais quelle est la prise en charge demain des violences sexuelles et sexistes concernant les femmes et les enfants? C'est un vrai sujet de campagne présidentielle pour les mois à venir. Alors, le problème, c'est que tu dérives des fois sur des propositions qui sont jugées populistes par les uns ou démagos ou inefficaces par les autres. Mais on voit que cette question, elle est centrale. Il y en a un qui l'a bien compris. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il dit. C'est Sébastien Lecornu, vous l'avez vu. Il dit oui, bien sûr, Gérald Darmanin doit gérer dans l'immédiat, on voit cette répartition des rôles, les sanctions éventuelles sur le cas terrible de l'affaire Liana.
Il veut la perpétuité ?
Absolument, mais ce n'est pas un fait divers, a dit Sébastien Lecornu. Ce sont des faits de société. C'est pour ça qu'il engage effectivement ces réformes qu'il souhaite à plus long terme sur le domaine de la justice, la question de la perpétuité, la question des 3 mois pour les démarches d'enquête, effectivement.
Les enfants.
Ça, le Premier ministre l'a bien compris. C'est aussi un message à destination de toutes les associations, notamment de dire, on ne minore pas cela, au-delà de l'affaire Liana, il y a un vrai sujet politique, c'est un fait de société.
Mais Gérald Darmanin est le mieux placé pour mener le dossier, ou il doit quitter la place Vendôme?
Ça fait très longtemps qu'on demande sa démission, quoi qu'il en soit.
Il l'écarte. Il a toujours dit,
On va galérer pendant encore quelques mois, mais c'est pas grave. Par rapport à toutes ces mesures,
la castration chimique.
Je vous conseille de lire le dernier article de la très grande autrice Valérie Ray-Roberts qui vient de revenir dessus, parce que c'est vraiment désespérant comment à chaque fois qu'il y a ce genre de faits divers, à chaque fois on revient vers des solutions dont on sait de par la recherche scientifique qu'elles ne marchent pas, et en plus quand on essaie de se positionner du côté des droits des enfants en disant mais ça ne marche pas, on nous dit vous êtes contre les droits des enfants puisque vous voulez pas aller dans la suite. Déjà, c'est vraiment aberrant qu'on en soit encore à mettre ça sur le terrain hormonal. La première cause pour laquelle on se tourne vers des proies faciles comme les enfants, c'est une question d'opportunité. Les enfants, on les a sous la main. Les enfants, ils ont moins de chances de se révolter comme une personne adulte. Ça laisse croire qu'il y aurait déjà un consensus dans la société française culturelle contre la pédocriminalité. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques années, M. Finkielkraut disait par rapport à l'affaire Polanski, ça va à 13 ans et demi, on n'est plus une enfant par rapport à la victime, et que quand Adèle Haenel, elle-même victime de pédocriminalité, d'ailleurs bravo à elle, elle a fait condamner son agresseur entre-temps, Christophe Ruggia, se lève heurtée des Césars, on est en train de couronner ce même Polanski, etc. Donc non, la question de la pédocriminité est un sujet culturel, est un sujet d'opportunité. Ce n'est pas...
Le pédocriminel, même si on prend tous conscience que ça existe, les pédocriminels sont bien là. Donc, comment on fait pour protéger les enfants?
Absolument. Et donc c'est là que ce qui est extrêmement dramatique, c'est qu'on ne va pas s'attaquer à la réalité des causes de ça, c'est-à-dire les normes de genre, c'est-à-dire les structures familiales, c'est-à-dire les modèles de masculinité. Et comme à chaque fois on stigmatise ces questions-là qui sont à la racine du patriarcat et comme on n'arrête pas d'en parler, et ben du coup on va repartir dans la surenchère.
Il faut les soigner.
D'ailleurs, il y a tout un tas de bonnes préconisations dans les suivis sociaux, médicaux des agresseurs, parce que je peux vous assurer que si en France on enferme toutes les personnes qui peuvent être coupables de criminalité, il faut accepter que le tiers du pays sera fait avec des prisons.
Les gens peuvent enfermer ceux qui sont déclarés coupables.
Et de toute manière, on est encore dans l'idée qu'il y a 1% des agresseurs qui sont condamnés. De toute manière, la marge est tellement grande que...
Est-ce que la cassation chimique... On parle aussi d'un fichier qui pourrait être rendu public, fichier des agresseurs sexuels. Il existe, mais il n'est pas public. Est-ce que c'est des choses qui pourraient faire avancer?
Malheureusement, les propositions que j'ai entendues hier, elles sont pas efficaces. Alors, elles parlent aux instincts, elles parlent aux gens, elles sont... Dans le cadre de Monsieur Retailleau, il est soit incompétent, soit démagogue, et c'est pas forcément alternatif. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. La réalité, c'est que la castration chimique, elle ne peut pas fonctionner. On se rend compte qu'elle ne peut pas fonctionner.
Pourquoi ?
Sauf si la personne est consentante. Donc c'est pas moi je m'en fiche du consentement, je suis très viril, je leur foutrais tous la castration chimique. Ça ne fonctionne pas.
Pourquoi? Vous dites, c'est pas que consentement administratif, consentement psychologique.
Si la personne ne veut pas, on la remet en prison.
Voilà, mais en tout état de cause.
Il peut y avoir
donc elle sera en coercition,
il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que c'est la castration chimique. La castration chimique, ça diminue les hormones, ça diminue la testostérone, mais si l'agresseur ne le fait pas pour des raisons de pulsion sexuelle, mais parce que il ressent un plaisir à simplement profiter d'un individu qui est en état de domination, sur lequel il est en état de domination, la castration chimique, elle ne change rien.
L'argument de Bruno Retailleau, c'est de dire, mais justement, on sait qu'on va pas pouvoir garder enfermé pendant des décennies ces personnes-là, et notamment celles qui sont les plus enclines à récidiver, donc c'est ça la solution.
Ouais. Non, la vraie solution, et vous posez la question de la solution, c'est le suivi médical. C'est de permettre, et ça c'est un vrai problème dans notre pays, c'est un vrai problème de moyens, pardon de le dire, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est un vrai problème de moyens.
Mais c'est pas une garantie à 100% le suivi médical non plus.
Non, mais ça aide beaucoup. Et ça, vous voyez, c'est un peu en soubassement. Ça fait pas de bruit, ça avance lentement, mais c'est extrêmement efficace.
Est-ce qu'un pédocriminel est incurable?
Pas du tout. Alors, par exemple, les pédocriminels, typiquement, par rapport à cette idée reçue, sont ceux qui sont les moins sujets à la récidive. On n'arrête pas de dire dans le débat public que les pédocriminels auraient pas de chance et que ce serait irréversible. Vous prenez toute la documentation scientifique, c'est-à-dire les rapports qui sont faits année après année dans plein de pays, et je parle de rapports endémiques, enfin massifs, les pédocriminels sont parmi les personnes qui en sortie de prison font le moins de récidives.
Beaucoup disent le contraire.
Hein. Alors qui ça? De toute façon,
des experts que l'on a pu recevoir.
La prochaine fois, je viens même avec les rapports.
Le droit pénal français a été construit de sorte à ce que l'idée d'une personne qui serait en incapacité de se réinsérer ou qui serait incurable, on a construit tout notre dogme en dehors de cette idée-là. Parce que si on va au bout de cette idée, si comme certains hommes politiques, on se dit que la personne est incurable, il faut en tirer les conséquences. Et il y en a que deux conséquences. C'est soit le rétablissement de la peine de mort, soit le maintien à vie
la perpétuité.
En prison.
Voilà. C'est ce que propose le cornu, la perpétuité.
Merci.
Ça va à l'encontre de notre philosophie.
Pour les violeurs en Syrie sur mineurs.
On le voit bien, le débat qui ne fait que commencer, qui sera sûrement, comme le disait Guillaume, au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle.